C'est l'heure maintenant de notre chronique L comme dans lire, hein, dans le LGBT, c'est L, c'est pour lire, non, c'est pour lesbienne, mais c'est pas grave, on dit aussi pour lire. Il n'est pas lesbienne, c'est bien il et lui, Brian Saint-Louis à Québec, comment ça va?
Ça va très bien, Denis Martin, et toi?
Oui, ça va bien. Alors, juste pour dire aux gens qui nous écoutent, ça se peut qu'on doive changer de canal de communication parce que Brian nous dit qu'il a peut-être un peu de problème à nous entendre, mais on va commencer en espérant que ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que nous avons lu tous les deux qui s'appelle « La renaissance de l'interlope » de François Bellemare.
Oui, publié aux éditions Sémaphore. C'est un roman là, qui va nous faire voyager entre le passé et la dystopie, c'est-à-dire le roman qui va nous amener dans le futur. Le point central, c'est une famille, les Foulaneau, et c'est aussi un immeuble montréalais qui est au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, qui est la propriété de cette famille-là. L'immeuble s'appelle l'Intermède, l'opéra théâtral, et il y a des traits d'union un peu inexplicables dans le mot, et c'est pour ça que tout le monde fait qu'on l'appelle finalement cet immeuble-là l'interlope. L'interlope, c'est un édifice dont la raison sociale va évoluer là, au fil des années. Et à chaque fois qu'il va connaître un grand succès de popularité, il va y avoir une petite baisse jusqu'à ce qu'on le réinvente, qu'on lui retrouve une nouvelle raison de vivre et que là, ça reparte de plus belle finalement. On aurait presque pu appeler ce roman-là finalement Les Renaissances de l'interlope parce qu'on suit quelques creux de vagues et remontées au cours de cette histoire-là. Là, au moment où ça commence, on est à Montréal, on est en 2030, et c'est Fatou, maintenant, qui est la nouvelle représentante de cette la dernière génération des Foulaneau, qui est encore en train de se questionner sur l'avenir de l'immeuble. À nouveau, ça va pas bien, il y a des dettes, et elle se demande si elle va jeter la serviette jusqu'à temps qu'elle dise « Oh, j'ai trouvé mon idée ». Là, on va semer aussi au début du roman une graine. À ce moment-là, le Québec va être gouverné par un nouveau gouvernement. Ça s'appelle la Coalition du Progrès. Et il a décidé de gérer les rapports entre les personnes de façon un petit peu plus serrée. Il va y avoir maintenant une charte de la prohibition de la séduction en milieu de travail. Imaginez-là un peu ce monde-là. Ouais. Donc, on ne tolère plus les commentaires déplacés au travail, les comportements qui sèment le doute. Et c'est ça qui va donner à Fatou la nouvelle idée pour sauver son immeuble. Et là, on va remonter dans le passé. Par exemple, on va vivre l'histoire du roman, l'histoire de cet immeuble-là. Donc, l'immeuble a toujours vécu avec une population marginalisée, en lui offrant un lieu de liberté, un endroit où des gens marginaux, des groupes qui avaient un petit peu plus de difficultés à se rassembler entre eux, pouvaient aller là. Et c'est ça qui faisait que l'immeuble avait du succès. Donc, ça commence la première génération avec des couples de francophones et d'anglophones qu'on réunit ensemble parce que c'était mal vu à l'époque. L'interlope permettait ça jusqu'à temps que ça soit un peu plus toléré qu'à ce moment-là, creux de vague pour l'immeuble, on décide de lui donner de nouvelles vocations et ça va toujours comme ça en vague. Pour les auditeurs de l'émission, évidemment, à un moment donné, ça va être les gays et les lesbiennes qui vont être au centre de cet édifice-là, au moment où c'est Maurice qui est le propriétaire. Donc, on va le permettre à ce moment-là aux gays ou lesbiennes de se rassembler dans cet immeuble-là. Ça occupe quand même une bonne partie du livre, cette section-là. Et là, on sent vraiment là, à ce moment-là, là, on parle de l'histoire de la ville, des mœurs du moment, les établissements qui existaient, le comportement des policiers qui n'était pas toujours exemplaire à cette époque-là. Mais là, vous comprenez un peu, à toutes les fois qu'il y a une minorité qui cherche un endroit pour se retrouver, l'interlope l'offre, mais là, les mœurs changent, on les accepte, ils n'ont plus tant besoin de l'interlope, ils peuvent aller ailleurs. Donc, même si l'interlope, c'est un lieu où on peut se rassembler, on accepte les minorités, mais dans le fond, on aime ça qu'ils soient des minorités parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent. Oui. Donc, on ne veut pas que les mentalités changent trop vite, finalement. C'est aussi une entreprise. Et je dirais que le roman, il est un petit peu de la même façon que cet immeuble-là. Moi, idéologiquement, ce roman-là, je ne sais pas exactement où le placer, où aller sa ligne idéologique, finalement. Parce que de la même façon que l'interlope qui est ouvert, qui semble donc assez ouvert à tout, mais là, lui, en même temps, il veut pas tant que les mœurs changent. Là, ici, dans ce roman-là, il y a plein de petites choses Moi qui m'ont un petit peu accroché, que j'ai pas tout à fait toujours compris. Donc c'est ça, même si on s'intéresse à des groupes marginalisés, il y a des groupes, il y a des notes de bas de page, par exemple, qui vont être excessivement ironiques, là, où on va montrer des moments d'histoire des gays, des femmes, des Amérindiens, qui vont nous montrer à quel point ils ont vécu des aberrations complètement historiques. En même temps, dans le livre, il y a des personnages racisés beaucoup, ça c'est très bien, je veux dire, on est à Montréal, on les dépeint, par contre, on les dépeint de façon qui sont parfois caricaturales. Il y a le choix des mots aussi parfois qui va
Moi, j'ai
agacer.
accroché sur le mot mulâtre. Dans les
Moi,
premières pages du livre, j'ai vraiment accroché là. J'aime beaucoup François, je l'ai déjà rencontré. Mais disons qu'il y a des choses qui m'ont déplu dans ce roman-là. Donc, on est là-dessus, à la même longueur d'onde là-dessus, je crois.
ben c'est ça, il dit mulâtre, il se dit aussi mulâtresse un peu plus loin en fin de roman. Ça
Oui.
aussi, ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc la finale aussi du roman, la dernière population que va choisir Fatou pour relancer son immeuble, on parlait au début de qu'elle était dans un creux de vague et qu'elle a une idée. La dernière catégorie de gens qu'elle va trouver ostracisés pour relancer, ça aussi, parfois, on est un petit peu, ça nous ferait froncer les sourcils.
Les
Côté
hétéros.
plus,
Ouais, c'est les
ouais,
hétéros
c'est ça.
qui sont ostracisés. Oui, j'ai
Ouais,
accroché là aussi.
on est comme dans une chronique de Richard Martineau, là, de mon Dieu, cet hétérosexuel qui n'existe plus. Wow. Donc, c'est ça. Côté plume aussi, c'est un petit peu une écriture qui est parfois lourde. Il y a des personnages et des événements qui sont un peu plaqués. On comprend la trame de base, on comprend parfois pourquoi ces choix-là sont faits, mais c'est pas une histoire avec des aventures qui transporte le lecteur et qui le fait vraiment participer dans l'histoire. Donc, quelques petits bémols quand même dans le roman. Mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un beau point de départ. L'idée de départ est très bonne et de revivre l'histoire quand même de Montréal comme ça,
Il y a
de
toute une
certains.
recherche, hein, qui a été faite là-dedans, c'est clair. Et comme je te dis, j'ai rencontré François au Salon du livre de Fierté littéraire cette année. Personne fort sympathique. J'ai lu le roman. Moi aussi, j'ai peut-être un peu accroché sur certaines phrases un peu lourdes, mais je comprends l'idée. C'est juste que j'ai de la misère à embarquer là-dedans comme d'autres. Alors, je rappelle que... Oui.
Peut-être un petit travail de finition là, qui aurait peut-être aidé justement là, certains mots qui auraient mieux
Oui.
coulé. Mais en tout cas, un exercice intéressant quand même, là, je rappelle, aux éditions Sémaphore,
Oui, donc
La
l'honneur
Renaissance.
de l'interlope. Oui. Le prochain titre, Grammaire pour un français inclusif, vraiment intéressant, surtout qu'on est dans ça présentement. Alors, parle-moi de ça.
Ben oui, vraiment un livre tout à fait dans l'air du temps. C'est vraiment, ce n'est pas un roman, c'est vraiment une grammaire
Oui, tout à
dont
fait.
je vais parler aujourd'hui. Déjà, la deuxième édition de ce livre-là, qui est fait par Alexandra Dupuis, Michael Lessard et Suzanne Zacour, s'est publié cette fois-ci aux éditions de Somme Toute. La première édition n'était pas là. C'est une nouvelle édition, revue, augmentée. Et on comprend pourquoi assez rapidement on avait besoin de cette nouvelle édition-là. Vous, comment ça se porte, votre écriture inclusive à la maison? Vous, Denis Martin, comment ça va?
Ben c'est compliqué. C'est compliqué.
Hey.
J'avoue que, tu sais, on est tous le produit du patriarcat et on nous a enseigné à écrire d'une certaine façon. Et je t'avoue que là, je suis rendu à un point où je me pose la question toujours, est-ce que je dois toujours mettre le point médian avec le E et puis le S, point médian, parce que tu sais que ça pose des problèmes aux gens en situation d'handicap. Là, les lectrices ont de la misère, les machines lectrices ont de la misère avec ça.
Ben,
Alors.
c'est ça, là, on est vraiment dans justement une étude un peu de où on en est dans l'écriture inclusive. Moi, je suis un peu à l'écriture épicène. J'utilise les doublons, je mets féminin et
Ouais,
masculin.
moi aussi.
Mais
Ouais.
ça, on voit que ça a des limites un peu parce que justement, et on en parle dans le livre, il y a une troisième catégorie maintenant, les gens non binaires, qui sont ni masculins ni féminins. On les met où? Comment qu'on les inclut? Donc, on sent déjà dans le livre que ce ne sera pas la dernière version de cette grammaire. Eux-mêmes le disent. Une langue, c'est vivant, ça continue d'évoluer. Donc, ils se penchent un peu sur les différentes façons d'écrire en ce moment. Oui, sur les trémas, pas les trémas, les barres obliques, les tirets, les points. On voit un peu toutes les différentes façons de faire de l'écriture inclusive maintenant. Donc, c'est fort intéressant. Là, il y a vraiment cette partie très, très grammaire. Et il y a aussi une partie d'exercice à la fin, si vous voulez vous amuser à devenir meilleur en écriture inclusive, maîtriser un peu plus ça, parce que oui, le français qu'on a appris à l'école s'écrivait d'une certaine façon. Là, on le voit, on le fait moins, on ne l'a pas appris. Donc, c'est une belle occasion vraiment d'apprendre. Il faut être ouvert un peu à ça. Mais moi, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, bien sûr, c'est la première partie du livre où on explique un peu pourquoi on fait cette écriture inclusive-là, pourquoi c'est important de changer la façon dont on parle, dont on écrit, pour mieux inclure les groupes. Et puis là, on sait qu'il y a déjà des gens probablement à la maison qui nous entendent parler en ce moment puis qui disent, mais mon Dieu, pourquoi on change ces règles-là? C'est comme ça, c'est correct de même. Le français, c'est une langue qui est vivante et on le voit dans le livre parce qu'on nous reparle de l'histoire du français, de mots féminins qui existaient auparavant, qu'on a enlevés de notre vocabulaire, de l'Académie française majoritairement masculine qui a comme révisé les mots, puis qui a enlevé le côté féminin. Donc, on le voit que même la façon dont on a appris le français maintenant, ça a été construit d'une certaine façon par un groupe dominant qui était les hommes. Et là, on comprend aussi ben, qu'autrefois, le français n'a pas toujours été comme ça. On donne beaucoup comme exemple le mot triste, par exemple, qu'on utilisait très peu il y a quelques années, qui est revenu en force, qui existait déjà. On nous parle d'anciennes règles de grammaire comme l'accord de proximité. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'avant, on n'accordait pas nécessairement le nom toujours masculin. On l'accordait avec le mot le plus près, qui était parfois féminin. Donc ça pouvait être intéressant. Et puis aussi, on parle ben, de tout le côté le sociologique de l'écriture, ce côté que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Pourquoi que les femmes qui ne voient jamais d'avocate, de médecine ou de profession en féminin, que ça a un vrai impact chez les jeunes, c'est montrer que les femmes ne sont pas capables de se projeter dans ces emplois-là parce que c'est toujours au masculin. Donc, il y a vraiment un côté très, très intéressant sur cette réflexion-là. La langue française change. Et ça apporte à la réflexion vraiment ce qu'on lit dans ce livre-là. Même si vous avez des réserves, on comprend un peu plus le combat. Et puis c'est fort intéressant. Donc, ne restez pas braqués sur vos positions. C'est très intéressant comme livre. On attendra bien sûr la troisième édition. Ça évolue. On va
Donc,
voir qu'est-ce que ça va donner, là, mais fort intéressant quand même pour tout avoir l'autre côté de l'histoire de la langue française, là.
alors, Grammaire pour un français inclusif, nouvelle édition, revue et augmentée chez Somme Toute. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
On se revoit dans 2 semaines, c'est
Dans
ça?
2 semaines, voilà.